Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dès à présent dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Et nous allons voir ensemble quelque chose de particulier ce soir. Trois moments où il y a eu un procès. Plutôt, on va en voir trois procès, mais deux ont déjà eu lieu et un aura lieu plus tard. Et le Jean chapitre 8 nous raconte l'histoire du premier procès qui a eu lieu, celui dont on va parler, le procès de la femme adultère. Mais je voudrais avant cela que nous puissions bien comprendre les choses, on va avoir trois procès particuliers. Il y en a un qui ne nous concerne pas directement, celui de la femme adultère, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais on va en retirer une leçon, ce jugement qui a eu lieu va nous donner une leçon. Le deuxième, là par contre il y a un choix qu'on a besoin de faire chacun pour notre part. Chacun, nous devons faire un choix par rapport au deuxième procès, et l'issue du troisième procès, ça dépend du choix qu'on aura fait juste avant. Donc, on lit ensemble au verset 1er, Jean chapitre 8, verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Ce soir, je voudrais qu'on voit ensemble qu'il y a la possibilité par la parole de Dieu de vivre le fait qu'on peut être jugé, mais pas condamné. C'est possible d'être jugé, mais pas condamné. Et il y a même cet appel solennel, cette vérité solennelle plutôt, qui est qu'on va tous, un jour ou l'autre, être jugés. Tous, nous devons passer un jugement, que ce soit ici-bas, si nous acceptons la parole, nous acceptons d'être jugés par la parole et nous réagissons de la bonne manière, ou si ça sera à ce moment-là, trop tard, dans le jugement dernier, où nous serons tous jugés pour les œuvres que nous aurons commises, et forcément, elles ne seront pas bonnes si on n'a pas fait la paix avec le Seigneur. Mais dans cette histoire, il est parlé d'un jugement particulier, parce que ce n'est pas véritablement un jugement officiel qui s'est passé. Vous êtes d'accord ? La femme adultère, elle a été mise là, devant Jésus, et les gens, ils ont commencé à l'accuser, mais déjà l'endroit où ça s'est passé, c'est le temple, c'était pas l'endroit où on rendait le jugement normalement. C'était pas à cet endroit-là. Normalement, à l'époque des Hébreux, c'était aux portes de la ville qu'on rendait des jugements. Et là, ils l'ont accusé, ils ont commencé à vouloir traîner cette femme devant Jésus et à l'accuser de toutes sortes de choses, qui sûrement étaient la vérité, mais c'était pas l'endroit où c'était la place pour ce genre de choses. Le temple signifiait la présence de Dieu, le fait d'adorer le Seigneur. Et vous voyez que déjà ces gens, à cause de leurs mauvais motifs, à cause de leur désir de d'éprouver Jésus aussi, ils ont commencé à dénaturer la maison de Dieu en voulant lui donner une importance qu'elle n'avait pas, dans ce sens que c'était pas l'endroit où on accusait les personnes. C'était pas l'endroit où on devait juger. Et ils ont demandé à Jésus d'être le juge aussi. Vous êtes d'accord ? Ils ont commencé à poser la question à Jésus. Bien sûr, on connaît leur motivation, c'est dit de manière très claire, afin de pouvoir l'accuser. Ils désiraient accuser Jésus. Ils désiraient pas que la justice soit faite, ils n'avaient pas des motifs purs, ils désiraient accuser Jésus. Et je m'imaginais cette scène, comme tout procès, comme tout tribunal, il y a donc un endroit où le jugement a lieu, mais il y a aussi un accusé. L'accusé, il apparaît de manière évidente, c'est la femme adultère qui est l'accusée. Le chef d'accusation, c'est encore très évident, flagrant délit d'adultère. Flagrant délit d'adultère. Pour pouvoir prononcer un jugement, on a besoin de s'appuyer sur quelque chose, d'avoir des critères, de quelque chose qui nous dit si c'est bien ou si c'est mal. Dans notre monde civil, on a le code pénal qui est là, avec toutes sortes de volumes. Je me souviens que j'avais un ami qui était étudiant en droit, et quand il me montrait tous les livres qu'il devait lire pour apprendre le droit, et le droit du commerce, le droit de ci, le droit de ça, le droit de l'Europe, le droit français... Enfin, il y avait toutes sortes de livres et c'était des livres assez costauds. Et pour les Juifs, c'était très simple. Ils avaient la Torah, ils avaient la loi juive. Et la loi juive, elle était claire par rapport à l'adultère. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lapider de telle personne. Lapider. Et c'était quelque chose de terrible quand ça se passait. Et c'était vraiment, au moment où ça a été donné, c'était vraiment pour montrer que le pécheur avait le péché en lui et qu'il devait être retranché du peuple. Et avec le temps, l'Empire romain est venu par là et l'Empire romain s'est attribué cette possibilité que c'était seulement lui qui pouvait condamner à mort. C'était seulement les officiers romains qui pouvaient condamner à mort quelqu'un. Et les juifs religieux qui étaient là, ils n'avaient plus ce pouvoir. Et heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas traîné. Et justement parce qu'il y avait cette ambiguïté entre la loi juive et entre l'Empire romain qui était là, qui avait le droit de donner la vie ou donner la mort aux gens, et il y avait cette ambiguïté qui était là, et ils ont voulu piéger Jésus à ce niveau. Et vous avez remarqué comment c'était insidieux quand même, parce que si Jésus... disait « Non, non, surtout ne la lapidez pas ». Alors il atténuait la loi de Moïse, la loi que Dieu avait quand même donnée par Moïse. Mais si Jésus disait « Oui, il faut la lapider », ça voulait dire qu'il prenait plus d'autorité qu'il ne devait en prendre. Dans tous les cas, il était piégé. Et j'imagine ces personnes se frottaient les mains. J'imagine ces personnes à l'intérieur exploser de joie et de dire « Ça y est, on a trouvé un moyen pour pouvoir avoir le Seigneur Jésus. On a trouvé un moyen pour pouvoir condamner cet homme, pour pouvoir l'accuser. » Mais Jésus, il lui a suffi d'une parole pour changer la situation. Comme ce soir, il n'y a pas besoin que vous reteniez beaucoup de paroles, mais une parole de Jésus peut suffire pour changer la situation dans votre cœur. Jésus, il a suffi d'une parole pour que retourner la situation, pour que ceux qui accusaient, parce que la partie il y avait la défense, mais il n'y avait personne pour défendre cette pauvre femme, mais l'accusation, et par contre, il y avait le rang de l'accusation, il était rempli, lui. Il y avait tous les pharisiens et les scribes qui étaient là. Et il a fallu de quelques paroles de Jésus pour que ceux qui étaient dans la partie de l'accusation, ils soient eux-mêmes accusés. Accusés par quoi? Accusés par leur conscience. Vous savez que Dieu a mis dans l'homme et la femme la faculté d'avoir cette conscience de ce que nous faisons, conscience que ce que nous faisons c'est bien ou que ce que nous faisons c'est mal. Il y a ça qui est au fond du cœur de l'homme. Et nous n'avons pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir que tous, autant que nous sommes, il y a quelque chose de mal que nous avons déjà fait. On n'est pas pur aux yeux de Dieu, on n'est pas saint, parfaitement saint. On a tous péché. Cette femme avait déjà cette conscience, mais elle avait encore plus parce qu'elle était là au milieu du peuple, au milieu de la foule. On l'imagine qu'elle était là, sûrement en train de pleurer, parce qu'elle a été découverte. Déjà le fait d'être découverte en flagrant délit d'adultère, c'est pas quelque chose de rigolo, mais en plus, elle a été traînée au milieu de la foule. Et tout le monde était en train de raconter son histoire, les pharisiens étaient en train de là de se raconter les uns aux autres. Regardez, on l'a trouvée, elle, et l'histoire circulait de bouche en bouche, et elle était là avec sa honte, avec sa culpabilité. Mais Jésus a dit cette parole, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et j'aime comment dans cette parole nous pouvons voir la sagesse de Jésus, la sagesse divine qui était présente dans la personne de Jésus, parce que Jésus est le Fils de Dieu, et il avait cette sagesse qui fait que une parole a suffi pour renverser la situation. Celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Vous savez que ceux qui étaient censés jeter le premier la pierre, c'était les témoins de la scène, les témoins de ceux qui avaient pris en flagrant délit. C'était eux, d'après la loi de Moïse, c'était eux, à eux de jeter en premier la pierre. Et ce qui est arrivé, c'est que Jésus n'a pas dit « Non, non, ne faites pas la loi de Moïse ». Il a dit « Non, non, au contraire, faites la loi de Moïse ». Mais par contre, que celui qui veut faire la loi de Moïse, il faut qu'il soit d'abord lui-même pur. Il faut qu'il soit lui-même parfait. Il faut qu'il soit lui-même rempli de cet esprit de justice, de désirer que ça soit la justice de Dieu, pas des motifs accusateurs, pas des mauvais desseins, que ça soit véritablement la recherche de la vérité, de la pureté, de la justice de Dieu. Que ça soit ça, ses motifs. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ces gens comprennent qu'ils n'étaient pas concernés par cette histoire. Que bien au contraire, ils étaient peut-être, on va dire, aussi coupables que cette femme. Ah, bien sûr, dans la loi de Moïse, on parlait peut-être moins de ceux qui étaient hypocrites, on parlait peut-être moins de ceux qui faisaient semblant, même s'il en est question quelquefois. Mais pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Le péché est le péché. Le péché est le péché. Et un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Un pécheur, d'ailleurs, ne peut pas sauver non plus un autre pécheur. Il est obligé d'avoir un autre moyen, et Dieu a donné un autre moyen aux hommes pour que le péché soit effacé, mais on y viendra par la suite. En tout cas, Jésus est devenu, sans le vouloir, le juge de cette affaire. Jésus est devenu le juge de cette affaire. Pourtant, il avait dit cette phrase que je vous lis, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La mission de Jésus, quand il était là sur cette terre, en chair et en os, c'était pas de juger entre les affaires des hommes, ce qui était bien, ce qui était mal. C'était pas ça. Sa mission, c'était justement de donner sa vie pour que le péché soit enlevé, n'ait plus la domination sur l'homme, pour que les hommes soient véritablement sauvés, pour que les hommes puissent avoir la vie que Dieu veut qu'ils aient. C'était ça sa mission. Et quand il a vu que cette affaire, ils ont commencé à vouloir en faire le juge, lui, il a commencé à écrire par terre. Vous voyez, combien on aurait aimé être là pour voir ce qu'il avait écrit. On aimerait tous savoir ce qui était écrit. Mais il y a un verset qui est intéressant, on peut le lire ensemble dans Jérémie chapitre 17. Gardez quand même la page. Jérémie 17, verset 13, qui pourrait nous donner une indication de ce que Jésus a écrit. Même si je ne veux pas dire que c'est absolument que ça qui a été le fait. Mais la parole de Dieu, elle dit quand même ces choses. Jérémie 17, verset 13. « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Et alors, « Car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » Vous avez remarqué ce verset ? « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Peut-être que Jésus a inscrit le nom des personnes qui étaient là en train d'accuser. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et à la limite, ce n'est pas important de le savoir. Ce qui est autrement plus important, c'est de savoir si notre nom, à nous, il est inscrit dans le livre de vie. C'est ça qui est déjà important. Si Jésus, il a inscrit notre nom dans le livre de vie ou pas. Si ce n'est pas le cas, combien nous avons besoin de venir et de croire en ce Sauveur, celui qui est venu pour sauver le monde, celui qui est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu, celui qui est venu pour rétablir la communion entre la créature et son Créateur. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Il a écrit quelque chose sur le sol pour montrer que non, je ne veux pas être juge dans vos affaires. Je veux que vous débrouillez-vous, entre guillemets, débrouillez-vous avec ce que la parole Dieu vous a laissé. Dieu, en tout cas, vous a demandé d'être droit, d'être juste, de ne pas faire de favoritisme. Déjà, dans cette histoire, il y a du favoritisme parce que pour commettre un adultère, il faut être deux et on voit qu'une seule personne qui est accusée. Donc déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la justice humaine. Et je pense qu'un avocat, aujourd'hui, il aurait pu faire un vide de procédure, enfin faire quelque chose pour trouver de manière logique, démonter l'accusation. Mais Jésus n'est pas rentré dans ce débat-là. Jésus, il a dit une parole. Et en une parole, il a changé les choses. Et il a pu dire aussi quelque chose de particulier. « Je ne suis pas venu dans ce monde pour juger le monde. » Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Mais regardez ce qu'il dit aussi. Jean chapitre 9, verset 39. « Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Alors, Jésus vient dans le monde, pas pour juger le monde, mais il est venu quand même pour un jugement. Et là, il faut comprendre le mot jugement dans le sens de la sentence du jugement. Jésus est venu sur la terre pour que ceux qui paraissent à leurs yeux ne pas voir ils soient éclairés par la lumière que Jésus va leur donner, et que ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus du lot, comme ces pharisiens et ces scribes, qui pensaient que grâce à leur religion, grâce à leurs bonnes œuvres, grâce à leurs longues prières qu'ils faisaient à haute voix avec grande éloquence, ils méritaient que Dieu les approuve, eh bien ces personnes, elles étaient aveugles. C'est ça que Jésus est venu annoncer. Dieu cherche quelqu'un qui ne se croit pas au-dessus du lot, quelqu'un qui reconnaît sa misère, quelqu'un qui reconnaît son péché, quelqu'un qui croit qu'il est justement pécheur, qui croit qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Dieu, c'est ça qu'il attend, simplement. Il attend un cœur repentant, et parce qu'il y aura cette disposition de cœur dans la personne, Dieu va pouvoir intervenir parce que Jésus a donné sa vie pour ces personnes-là. Et ceux qui croient, eux ne pourront pas véritablement voir ce que le Seigneur voudrait qu'il voie. La sentence de Jésus à cette personne, elle nous étonne. Je ne te condamne pas non plus. Les autres n'ont pas pu les condamner parce qu'ils étaient des pécheurs, mais lui, on est d'accord qu'il était le seul homme qui pouvait la condamner parce qu'il n'était pas pécheur. Il n'a jamais fait de mal, il n'a jamais eu de fraude dans sa bouche, il n'a jamais dit quelque chose de travers, il a toujours obéi au Seigneur. Et pourtant, il dit cette phrase encore remarquable, « Je ne te condamne pas non plus ». Et je pense que s'il a pu dire cette phrase, c'est qu'il a vu justement dans le cœur de cette personne, de cette femme adultère, il a vu la repentance dans son cœur. Parce que Dieu ne condamne pas, Dieu ne pardonne pas celui qui ne se repent pas. Dieu pardonne celui qui va avouer sa transgression et qui va la délaisser. Si Jésus a pu dire « Je te condamne pas non plus », ça veut dire qu'il a vu dans le cœur de cette personne son regret, sa tristesse profonde parce qu'elle avait enfreint la loi de Dieu, parce qu'elle avait fait le contraire de ce que Dieu demandait, parce qu'il a vu cette attitude de cœur et il a pu lui dire « Je ne te condamne pas non plus ». Je pense que si cette femme avait pris cela avec désinvolte, « Oh, de toute façon, ça, j'ai péché, mais c'est pas grave, je referai une autre fois ». Non, il n'aurait pas dit « je ne te condamne pas non plus ». Il a vu. Et comme il a vu dans le cœur de ces pharisiens et de ces scribes, les mauvais desseins qu'ils avaient, les mauvais motifs qui étaient là. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en son jugement, parce que Jésus, il ne regarde pas à l'apparence, Jésus ne regarde pas ce qui frappe le regard, il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Jésus peut juger de la meilleure des manières parce qu'il regarde à notre cœur. Et combien c'est important dans la société dans laquelle nous vivons où il y a beaucoup de choses qui fait en apparence, même les religions, c'est beaucoup d'apparence. On vous propose une religion, ah ça consiste en quoi ? Ben il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ça la religion. Alors que la religion dont Dieu parle, c'est vraiment cette communion avec le Seigneur, c'est de se préserver des souillures du monde, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur, d'accepter qu'il n'est pas venu pour nous juger quand il était sur la terre, il est venu pour nous sauver, mais qu'un jour par contre il y aura le jugement. Et on va y venir plus tard. Ce soir, de quel côté sommes-nous ? Est-ce que nous sommes dans le banc de l'accusation de ceux qui ont pris pour habitude de se croire au-dessus des autres et qui accusent les uns, qui ont pris l'habitude de regarder ce qui ne va pas, les petites choses qui ne vont pas, la paille qui est dans l'œil du voisin, au lieu de regarder à son propre cœur, de regarder à la poutre qui est dans notre œil, comme le disait le Seigneur. Ou est-ce qu'on est plutôt dans cette catégorie de personnes, comme cette femme adultère, à reconnaître notre péché, tout simplement ? Est-ce que je suis là, dans la présence de Dieu, je sais qu'il voit mon cœur, mais je sais que devant lui, devant sa sainteté, devant sa perfection, je suis un homme pécheur, je suis un homme qui a fait le mal, je sais que en moi, je désire faire le bien, mais je n'y arrive pas par ma propre force, par ma nature. J'ai besoin d'un sauveur. Est-ce que nous sommes dans ce camp-là ? Alors si nous sommes dans ce camp-là, eh bien, nous avons pouvoir bénéficier de l'amour de Dieu. Dieu a donné son Fils en rançon pour racheter, comme on l'a chanté tout à l'heure. Il a payé le prix pour que nous puissions être rachetés, pardonnés de nos péchés, lavés, et que le péché n'ait plus d'influence sur nous, mais que nous marchions en nouveauté de vie. Dieu nous change totalement si nous lui faisons confiance, si nous lui donnons notre vie. Dieu nous change, c'est-à-dire qu'il nous donne une nature différente. Avant, on était des pécheurs, mais quand on accepte son pardon, quand on accepte d'être lavé par son sang, il change notre nature. On est toujours des êtres humains, mais des êtres humains avec une nouvelle nature, une nouvelle création. Ça, c'est le miracle que Dieu veut faire. En tout cas, nous allons tous être jugés. mais il nous appartient de ne pas être condamné. Vous êtes d'accord ? C'est ce qui est arrivé à cette femme. Cette femme, elle est repartie, et vous avez remarqué cette phrase, on peut la relire ensemble, au verset 11. C'est la phrase que Jésus lui a dite. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » La loi juive, elle, ça impliquait une condamnation, une punition. Quand on obéissait à la loi juive, ou on n'obéissait pas plutôt, il y avait une condamnation qui était là. Mais Jésus est venu en précurseur, il a commencé à anticiper un peu sur l'œuvre qu'il allait faire à la croix, il a commencé à faire la loi de la grâce. Et cette femme qui méritait d'être condamnée à mort, il lui a dit cette parole, « Va et ne pêche plus ». Quand Jésus parle, il nous donne la capacité de ne plus pécher. Quand Jésus nous donne une parole, il nous donne la capacité de lui obéir. Quand Jésus nous donne un ordre, il nous donne cette capacité de faire ce qu'il nous demande. Va et ne pêche plus. Et on comprend bien là que Jésus, il dit pas, ah, après tout, l'adultère, c'est pas très très grave. T'as pas eu le choix, je sais pas les circonstances, mais bon. Non, Jésus, il est pas en train de limiter, d'atténuer le fait que l'adultère, c'était quelque chose de grave. Mais avec une parole, il lui dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Comme Jésus voudrait ce soir nous dire une parole. Crois au sacrifice, crois au sang qui a été versé pour tes péchés. Et tu ne pourras plus pécher parce que je changerai ta nature, je changerai ta façon d'être, je changerai qui tu es. Ça, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous vivions. Deuxième jugement, vous allez voir, ça va aller très vite, c'est le jugement des pécheurs. Vous savez que ce jugement a déjà eu lieu. Le jugement des pécheurs, le jugement des péchés en particulier, ça a eu lieu. Où ça ? À quel endroit ça a eu lieu ? Sur la croix. L'accusé, c'est chacun d'entre nous. Le chef d'accusation, nous sommes tous des pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Tous sont séparés de la communion avec Dieu. Le critère qui nous juge, c'est cette parole de Dieu que Dieu nous a laissée. Nous voyons très bien, si nous la lisons, si nous lisons simplement les évangiles, nous voyons très bien que nous correspondons à cette description des pécheurs. D'ailleurs, Dieu a donné cette description de celui qui pêche. Celui qui pêche, c'est celui qui transgresse la loi. Celui qui fait le contraire de la loi, de la parole de Dieu. L'accusateur, il y en a un qui est bien connu, c'est le diable qui, jour et nuit, accuse ceux qui sont déjà sauvés, mais il accuse aussi ceux qui ne sont pas sauvés. Il les accuse, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois que tu vas de plus en plus mal, et combien on est accusé par le diable. Notre défenseur, Jésus nous l'a dit, c'est dit du moins dans sa parole, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Jésus-Christ est notre avocat. Le juge, c'est Dieu, celui dont les jugements sont vrais et sont véritables. La sentence du pécheur, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et voilà ce que Dieu propose. Dieu propose quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que, alors que nous méritions, chacun d'entre nous, la mort, parce que nous étions tous des pécheurs, Jésus est venu à notre place. Jésus est venu prendre la condamnation à notre place. Jésus est venu prendre le jugement qui nous était réservé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus est venu prendre cette place-là pour que nous ne soyons pas condamnés, que nous ne soyons pas jugé au temps de la fin, que nous soyons plus inscrits dans le livre de vie. Imaginez que je sois reconnu coupable d'avoir fait un excès de vitesse et que dans l'endroit où ça se passe, il y a la photographie de moi dans la voiture en train de faire l'excès de vitesse, il y a des preuves, il y a la vidéo, il y a tout ce que vous voulez, et il y a le juge qui est là et me demande de payer une rançon, quelque chose qui dépasse mes moyens financiers. Une rançon très très importante parce que dans ce pays, il y a tellement eu d'accidents qu'ils ont mis un prix très très fort. Et alors je suis là, je suis reconnu coupable et ils me disent bah, « vous payez ou vous allez en prison ». Alors moi je suis là, dépourvu de tout moyen de pouvoir me sauver. Et puis à ce moment, mon avocat se présente et dit « moi je vais payer ta rançon, je vais payer pour toi ». Est-ce que ça serait logique que je reste en prison, enchaîné ? Aujourd'hui, c'est plutôt menotté, hein, mais on imagine que je reste menotté en prison et à passer ma vie à me morfondre. Ah, j'ai aucun moyen de me sauver. Est-ce que ça serait logique alors que mon avocat se propose pour payer? Jésus, c'est exactement ce qu'il a fait. Et encore, il n'a pas fait pour une personne, mais il a fait pour toute la terre. Il a fait pour tous les hommes, ceux qui ont déjà vécu et qui sont morts, et ceux qui vont venir encore. Il a fait pour toute l'humanité. Et il a payé quelque chose de très cher, pas par de l'or, pas par de l'argent, mais il a payé au prix de sa vie le rachat de mon âme, le rachat de chacune de nos âmes. Est-ce que ça serait logique alors que Jésus a tout payé, que je continue de vivre ma vie dans le péché, esclave du péché, prisonnier de mes pensées, prisonnier de ma chair, prisonnier de ma mauvaise nature? Est-ce que ça serait pas plutôt logique que je sois réellement libre, comme le Seigneur nous l'a promis? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ, nous avons la vie. Par Jésus-Christ, nous avons le moyen d'être libérés du péché. Le péché a été jugé. Jésus est devenu péché. Et c'est pour cela qu'il a été frappé de Dieu et humilié. Parce qu'il est devenu péché. Mais maintenant, le péché est jugé. Et nous, qui croyons en Jésus, nous sommes libérés de cette condamnation. Libérés de ce poids. Et c'est véritablement, quand on sait qu'on est condamné et qu'on a une peine à purger, et qu'on sait que quelqu'un nous paye l'amende ou nous paye la rançon pour que ça passe, il y a un poids qui se lève de nos épaules, vous êtes d'accord? Si on a une dette incroyable et que quelqu'un vient nous faire un chèque, tiens, je te paye ma dette, je te paye ta dette, est-ce qu'on ne va pas se sentir soulagé, se sentir bien, se dire en disant avec reconnaissance, merci, sans vous j'aurais pu rien faire? Mais c'est la même manière, c'est ce qui nous arrive à nous si nous croyons au Seigneur Jésus. Et le troisième jugement qui aura lieu, les deux autres ont déjà eu lieu, jugement de la femme adultère, ça nous donne cet exemple que Dieu fait grâce, mais le jugement des péchés, il a déjà eu lieu. Mais il y a un jugement qui viendra. Et celui-là, il est bien plus terrible que les autres, parce que quand le jugement va commencer, ça sera déjà trop tard. Souvent, quand il y a un procès, peut-être au fur et à mesure que le procès avance, il peut y avoir des éléments qui font changer, qui basculer d'un côté ou de l'autre. Mais à ce procès-là, ça sera déjà réglé avant même de commencer. Tout dépendra du choix qu'on aura fait par rapport au jugement des péchés. Est-ce que j'accepte que Jésus a porté mon péché et je suis débarrassé de ce poids si je me repens, si je demande pardon? Ou est-ce que je n'accepte pas et alors je garde ce poids? Alors que j'ai la liberté en Christ, mais si je ne vais pas en Christ, je n'ai pas la liberté. Tout dépend de ce choix. On peut lire dans Apocalypse chapitre 20, on va voir cette lecture qui nous l'explique tellement bien, ce que sera ce jugement dernier, ce jugement éternel. Apocalypse chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. » Et regardez ce qu'il est écrit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et on peut dire « Amen », même si c'est une parole terrible, mais c'est une parole qui va s'accomplir. Quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie connaîtra la seconde mort, connaîtra ce qui est dit comme la mort éternelle, la mort qui va durer pour l'éternité. Et c'est des choses qui nous dépassent. Mais tout dépendra du choix qu'on aura fait. Le tribunal, ça se passe devant le grand trône, là où Dieu siège avec puissance, avec justice, avec force, avec vérité. La Bible nous dit que quand on sera devant lui, tout homme confessera que Jésus est Seigneur. Même celui qui est pécheur, il va le confesser parce qu'il n'aura pas le choix. Il va le reconnaître. Par contre, ça ne pourra plus le sauver. Ça sera trop tard. Et c'est vraiment important de comprendre qu'à ce moment-là, nous allons tous comparaître. Nous allons tous être jugés, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, ça sera une simple formalité. Ah, tu es dans le nom. Ton nom est inscrit. De Dieu Norbert, vous êtes dans le livre de vie, c'est bon. Le jugement a déjà été accompli pour vous. Jésus a pris votre péché. Et on pourrait mettre chacun, tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, on pourrait mettre notre nom, parce que c'est ce qui se passe. Mais pour tous ceux dont le nom n'est pas trouvé, on aura beau sortir les œuvres qui ont été faites, et on va voir qu'il y en aura beaucoup de mauvaises, même s'il y a des bonnes œuvres ne suffisent pas à rattraper les mauvaises. Les bonnes œuvres ne sont pas suffisantes. Et ce qui suffit pour sauver quelqu'un, c'est le simple nom de Jésus. Si tu confesses le Seigneur Jésus de tout ton cœur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qui sauve véritablement quelqu'un. Alors, que nous puissions être de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Que nous puissions pas être de ceux, justement, qui seront jetés dans les temps de feu, dans cette mort éternelle, séparés de la présence de Dieu, qui vont suivre le chemin où le diable et ses anges ont été, c'est-à-dire, vous savez que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, pour tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Mais tous ces hommes qui auront suivi cette même voie, tous ces hommes qui se seront rebellés, Dieu, j'en veux pas, Dieu, je veux pas m'en occuper, je verrai ça plus tard. Oui, il y a un jour où vous verrez ça, mais ça sera trop tard. Le Seigneur vous exhorte ce soir à faire la paix avec lui dès maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors ce soir, qu'est-ce que nous allons faire, chacun pour notre part? C'est une question que le Seigneur nous pose. Est-ce que nous allons faire un mauvais choix et regretter éternellement? Vous savez que ce qui va se passer dans cet étang de feu, c'est le regret éternel. Les hommes seront rongés de remords. Ah, si j'avais su! Ah, si j'avais répondu! Ah, si j'avais fait ce que Dieu me demandait! Ah, si j'avais laissé mon cœur s'ouvrir à l'Évangile! Ça sera du regret éternel. Ou est-ce qu'on va faire le bon choix? Croire? C'est très simple. Croire que Jésus est mort pour nos péchés. Croire que c'est lui qui nous donne la vie. Croire que le fardeau qui est sur nos épaules, c'est lui qui l'a porté véritablement et qui veut nous donner le repos. Si nous croyons ces choses, eh bien notre nom est inscrit dans le livre de vie dès maintenant et nous n'avons pas à craindre le dernier jugement parce que notre péché a déjà été jugé en la personne de Jésus et il veut devenir notre sauveur, celui qui conduit notre vie, alors que nous puissions simplement comprendre que tous nous sommes appelés à être jugés, mais nous ne sommes pas tous appelés à être condamnés. Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés. Dieu veut que nous soyons sauvés, alors que nous puissions justement répondre à ce salut qu'il nous a donné en la personne de Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que c'est toi qui sauves, c'est toi qui bénis, c'est toi qui as donné le moyen de salut, Seigneur, en donnant ta vie pour nos péchés. C'est toi qui nous permet d'être libérés de cette influence, qui nous conduit au mal, qui nous porte au mal, Seigneur. C'est toi qui nous libère de notre propre nature, Seigneur, et qui nous permet de devenir des enfants de Dieu. C'est toi qui nous change, Seigneur, littéralement. Alors oui, nous voulons venir devant toi dans cette soirée, en te demandant de faire ton œuvre dans nos vies. Nous voulons croire à ton sacrifice, croire à ton sacrifice, croire, Seigneur, que tu as tout accompli déjà, Seigneur, et que sans toi, il n'y a pas de salut. Seigneur, dans ces instants, tu parles au cœur de chacun. Tu vois ceux qui sont présents, ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont déjà fait la paix avec toi. Tu permets que leur cœur soit affermi encore dans tes paroles, Seigneur, et qu'ils puissent continuer à marcher fidèlement, à marcher avec sérieux devant ta face, Seigneur, afin que leur nom ne soit pas effacé du livre de vie. Tu vois ceux qui n'ont pas cette certitude, ceux qui n'ont pas l'espérance du salut dans leur cœur. Alors, Seigneur, tu touches déjà leur cœur dans ces instants.